Shalom tout le monde, on est dans l'île de Bereshit au chapitre Yud Aleph. Dans Bereshit, on est toujours dans le livre de Bereshit. Pas dans la paracha de Bereshit, mais dans le livre de Bereshit. Et on en est, si je ne me trompe, au chapitre Yud Aleph, au verset Hé. On avait parlé du problème de la construction des briques, n'est-ce pas? Ouais, bon. Alors passez, je vous en prie, au verset Hé, dans le chapitre Yud Aleph. Vous l'avez trouvé? Tu as trouvé, moi? Chapitre Yud Aleph, verset. Vayered Hashem. Ça veut dire quoi, Vayered Hashem? Hashem descendit. Que signifie cette expression que Dieu descend? Cette expression apparaît quatre fois dans la Torah. La première des quatre, c'est ici, Vayered Hashem. La deuxième fois, c'est Vayered Hashem al Har Sinai, et Dieu descendit sur le mont Sinai. Troisième et quatrième fois, il est dit Vayered Hashem Be'anan, Dieu descendit dans la nuée. Alors, à chaque fois, ça signifie une révélation, n'est-ce pas? Donc, ici aussi, Dieu descend, c'est une révélation. À qui se révèle-t-il? Aux hommes. Aux hommes. Vayered Hashem, Dieu se révèle aux hommes. Ça veut donc dire que selon le témoignage même de la Torah, il y a eu une révélation de Dieu aux hommes avant le Sinaï. Une grande révélation dans l'Antiquité, qui a, virtuellement en tout cas, comprenait l'ensemble de l'humanité. Ce qui veut dire que l'humanité, dès son origine, depuis les débuts de l'histoire, a été informée du projet de Dieu pour chaque nation. Ceci bien avant la création du peuple d'Israël et la révélation du Sinaï. Ça veut dire également, que ça explique pourquoi dans les traditions antiques, dans les mythologies, on raconte tout le temps qu'il y a eu un temps où les dieux étaient sur la terre. Vous connaissez ce genre de récits? Les Goïms racontent qu'il y a eu un temps où les dieux étaient sur la terre. Si on comprend sérieusement ce qu'ils veulent dire, ça veut dire qu'il y a eu une révélation. Et qu'il y avait donc une proximité du divin, interprétée à leur manière, évidemment, à la manière des idolâtres, mais une révélation quand même. Et quand on s'imagine une révélation, alors on a une image dans la tête, une image d'épinal, pourrait-on dire, qui en vérité est totalement fausse. On s'imagine la révélation comme une sorte d'éruption volcanique, puissance 20, ou puissance 1000. D'accord? C'est une éruption qui terrorise, ça fait très peur. On est tout petit devant le divin, tout le monde est écrasé. Il n'y a rien n'a de sens devant la révélation de Dieu. C'est ça l'imagination qu'on a dans la tête. Mais selon la tradition rabbinique, c'est exactement le contraire qui s'est passé lors de la révélation. Par exemple, à propos du verset dans Tehillim, chapitre Kaftet, c'est 29, on dit « Kol Hashem Bakoach » La voix de Dieu est dans la force. Alors, que disent les Chachamim? Comment est-ce qu'ils interprètent ce verset ?« Kol Hashem Bakoach » Lefi Kocho Shel Kol Echad Ve'Echad » Selon la force de chacun, la capacité de chacun. C'est-à-dire, Dieu est très fort puisqu'il se met à mon niveau. Et donc, chacun, selon son niveau, reçoit une intensité de révélation qui correspond à sa capacité de recevoir. Donc, c'est exactement le contraire de l'image d'Épinal. Et de plus, quand il y a une révélation de Dieu, rappelez-vous que d'après la Torah, Dieu, c'est le Créateur. N'est-ce pas? Dieu, c'est le Créateur. Si Dieu c'est le Créateur, ça veut dire que c'est celui qui a voulu que j'existe. Donc, quand je le rencontre, je ressens très fortement mon identité. Je la ressens comme un absolu. Je suis, moi, tel que je suis, voulu par Dieu. Et donc, je suis en opposition très forte avec l'autre. Ça explique pourquoi la révélation de Dieu entraîne la discorde. Parce que chacun se sent le seul au monde. Vous savez que la Mishnah dit, « Chayav kol adam lomar, tout homme doit dire, « Bishvili nivra olam, c'est pour moi que le monde a été créé. » Et mais il y en a d'autres qui disent aussi comme ça, « Oui, mais eux, ils se trompent, c'est moi qui ai raison. C'est pour moi que le monde a été créé. » Et donc, quand on est dans cette situation-là, de sentir que je suis seul au monde, je suis de moi le centre du monde, précisément, je ne peux pas m'entendre avec l'autre. Mon langage repousse, exclut son langage. Ça explique pourquoi la tour de Babel n'a pas pu continuer dès qu'il y a eu révélation. Je reprends donc ici le verset. « Vayered Hashem lirot et ta'ir asher v'et amigdal asher banu b'nei ha'adam » et Dieu descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient construit. Et donc ils se sont séparés. Regardez au verset Zayin. « Hava nereda v'nav lasham sefatam » descendons et mélangeons leur langage. Asher loishmeu sefatreu, de sorte qu'ils n'entendent pas chacun la langue de l'autre. Vayafet sachem otam misham, et Dieu donc les dispersa de là-bas. C'est-à-dire, ce qui a été introduit, c'est pas la diversité des langages, parce qu'à ça, on sait qu'il y avait déjà plusieurs langues à l'époque, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'incompréhension entre les hommes. Ils ne se comprenaient plus. Donc, on peut dire que la révélation a sauvé les hommes de l'enfer de la tour de Babel. C'est un enfer, la tour de Babel. Ben voilà, maintenant ça a été sauvé.
Est-ce que ça leur a fait disperser une part de leur projet, étant donné qu'ils n'ont plus la compréhension?
Donc ils renoncent à leur projet.
Ouais, ne l'oublie pas, mais...
Ne l'oublie ça, pas, ça, ne l'oublie pas, mais ils voient que c'est beaucoup plus difficile que ce qu'ils pensaient. Mmh. Donc le problème de l'unité de l'humanité reste entier. C'est-à-dire, si... en fait, il y a ici deux problèmes. Soit on va dans un enfer froid, un enfer glacé, c'est l'uniformité de la tour de Babel. Soit on va dans un enfer brûlant, c'est la discorde entre les hommes. Alors, c'est terrible. C'est un mal ou un autre. Soit l'uniformité, soit la discorde. Il faut trouver une solution à cela. La solution, c'est ce qu'on appelle l'unité. C'est quoi l'unité ? Chacun garde sa spécificité, sa différence, mais il y a un but commun, une sorte de caisse commune dans laquelle chacun contribue. Ça ressemble un peu à la tour de Babel, mais sans effacer les différences. Au contraire, le centre s'enrichit des différences de chacun. Vous avez compris ? C'est l'arrière-plan de l'apparition sur la scène d'Abraham. Et Abraham vient régler le problème de l'unité. C'est-à-dire, il y a 70 nations, et Abraham va en créer une 71e. Et la 71e a pour but de faire l'unité des nations. Regardez une petite seconde au chapitre Yudbet. Je sais que ça allait un peu loin, mais enfin. Chapitre Yudbet, au verset Yudgimel. Non, pardon. Chapitre Yudbet, verset Gimel. Chapitre Yudbet, verset Gimel. Qu'est-ce que dit la Torah ? Va'avarcha mevarchecha onkalelcha or, je bénirai ceux qui te bénissent et ceux qui te méprisent, je les maudirai. Venivrechou becha, kol mishperot adama, et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. D'accord ? Est-ce que là vous suivez ? Parce que là je vais compliquer la chose. J'ai traduit le mot venivrechou, seront bénis. Mais en fait, c'est faux. Vénirechou ne veut pas dire seront bénis. Parce que si on voulait dire seront bénis, on emploierait la forme grammaticale hitpael. Donc on dirait vehitbarechou, becha comme shorot adama. En toi seront bénis, c'est vehitbarechou, toutes les familles de la terre. Cette expression, par exemple, on la trouve à la fin du récit de la Akedat Titzra, quand Dieu dit à Abraham, vehitbarechou bezaracha kol goyei haaretz. Dans ta descendance seront bénies toutes les nations de la terre. Ça, c'est écrit là-bas en toutes lettres. Mais là, le mot employé, ce n'est pas Veitbarecho, c'est Venivrechou. Venivrechou signifie, en hébreu, seront marcotés. En toi seront marcotées toutes les nations de la terre.
Quoi marcoté?
Marcoté, c'est l'opération du marcotage. Le marcotage, c'est un mot en français. C'est un mot qui vient de la viticulture. Vous savez ce que c'est que la viticulture?
Le vin.
Les vignobles. C'est la vigne. Dans la culture de la vigne, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut connaître. Un des éléments, c'est ce qu'on appelle le marcotage.
Quand on coupe, au contraire.
C'est l'émondage. Il y a le marcotage, c'est on prend un sarment de vigne. Un sarment, c'est une branche. C'est une branche un peu élastique, comme ça. Il s'agit. On peut la tourner. Et on prend le sarment et on le courbe. On le courbe et on enterre la tête du sarment, exactement, dans le sol. Voilà. Et ça donne des nouvelles racines et ça donne un nouvel arbre.
On fait ça
plusieurs fois, comme ça. On marcote plusieurs fois. Ça s'appelle le marcotage. Ça, en hébreu, les avrir. Les avrir, c'est-à-dire donner la forme du genou. Berech. Berech veut dire genou. Effectivement, la forme que l'on donne au sarment. Il s'agenouille. Et si c'est vrai, alors ça veut dire qu'en toi seront marcotées toutes les familles de la terre. C'est-à-dire qu'on va faire une grande opération viticulture, viticole. On va prendre toutes les vignes du monde. Les vignes, ce sont les nations. Et les nations vont se réunir dans une opération de marcotage en Avraham. Alors Avraham représente quoi dans il est à l'image de quoi? Du sol. Il ressemble au sol. C'est-à-dire, toutes les nations sont des vignobles. Elles vont entrer dans un sol qui est Avraham, qui va donner une sorte de vigne commune, qui va unifier universellement toutes les nations de la terre. Venivrechou becha kol mishpachot ha'adama, en toi seront marcotées toutes les nations de la terre. Nous avons donc ici compris deux choses, un verset de la Torah et un mot en français. Donc il y a ici double avantage. D'accord ? Et donc, en fait, ce qu'Abraham ici fait ici, ce qu'on appelle en hébreu Ardout, il fait l'unité des différentes nations. Chaque nation amène sa richesse. Ça explique d'une autre manière la fameuse bénédiction que nous disons avant d'étudier la Torah. Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Il nous a choisi de toutes les nations, il nous a donné sa Torah. C'est-à-dire qu'il nous a choisi de toutes les nations. Bachar banu mikol ha'amim. Ça peut être compris comme ça. Il a pris un petit peu, il a choisi un peu de chaque nation pour en faire le peuple d'Israël. Et il a pris un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Ça donne finalement la nation d'Israël. Et ça se reproduit plusieurs fois dans l'histoire. Par exemple, aujourd'hui, vous savez que l'État d'Israël est le seul pays du monde dans lequel il n'y a pas de juifs. Il y a des juifs en France, il y a des juifs en Russie, des juifs en Amérique, des juifs au Maroc, des juifs en Irak. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Ben ici, il y a des Français, des Irakiens, des Russes, des Marocains, des Américains, etc. C'est-à-dire que chacun vient avec la trace de l'identité des nations qu'il a rencontrées pendant son exil. Et se reproduit ici une sorte d'identité originelle. Vous avez compris? Voilà, c'est ça qui se passe à travers Abraham. Alors maintenant, imaginez-vous la stratégie d'Abraham. Imaginez par exemple que vous entrez dans une salle dans laquelle vous avez 200 personnes. Les 200 personnes en question sont en train de manger un cocktail. Ils discutent comme ça, de ça et de rien, de tout et de rien, small talks comme on dit en arabe. Et tout se passe comme il faut. Brusquement, entre dans la salle un personnage et qui dit deux mots seulement. Il dit « moi, vous ». Voilà, c'est tout ce qu'il dit. Le fait d'avoir dit ces deux mots-là, ipso facto, crée une tension. La tension sera soit un rejet, soit une adhésion. Il n'y aura pas d'indifférence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être indifférent au fait qu'il y a quelque chose qui se met en exception par rapport à tout le reste. Et donc la réaction immédiate du monde lorsqu'Abraham apparaît sur la scène et qui dit il y a moi et vous, la première réaction c'est l'antisémitisme. C'est-à-dire, on peut dire que le rejet d'Israël est intrinsèque, il est built-in, il est intrinsèque à l'être d'Israël. Mais la haine. Si je suis capable de te haïr, c'est que je serai capable un jour de t'aimer. C'est-à-dire que la haine peut devenir l'amour. Oh, c'est pas très long à faire. Ça prend en tout 4000 ans. En 4000 ans, tout s'arrange. C'est-à-dire que c'est un long travail, un long trajet commencé par Abraham, qui commence à la tour de Babel pour régler le problème de la diversité des identités humaines, de l'éclatement de l'humanité, à travers un centre qui est Israël. Jusque-là, vous suivez? Bon, maintenant, si c'est comme ça, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu rigoles, c'est quelque chose qui te trouble dans ce que je dis? Bon, ça va, ça va. S'il y a un truc à me faire participer, ça, j'aimerais bien. Bon, maintenant, le problème est de savoir comment est-ce que Abraham a été prédisposé à ce genre de travail. Il faut bien qu'il y ait une raison à cela. Eh bien, la Torah nous raconte dans le chapitre Yud Aleph, et là nous revenons un peu en arrière, elle nous raconte l'histoire de la famille d'Abraham. La famille d'Abraham sont des descendants de qui? De Terah. Oui, mais Terah, il est descendant de qui?
De Shem.
De Shem, oui. Mais enfin, Shem, c'est tous les Sémites. Est-ce que dans la famille des Sémites, il y a une famille particulière d'où descendrait Terah? Regardez au chapitre Yud, au verset Kafhe. Ou Kafdalet, même. Oui, c'est ça. Arparchad, il y a la de Shelach, Veshalach, Veshelach, il y a la de Taever. Donc, Arparchad engendre Shelach qui engendre Ever. Et donc, les descendants de Ever sont appelés des Ivrim. En français, des Hébreux. C'est pas? Donc, le premier des Hébreux, c'est le fils de Ever. Qui c'est le fils de Ever? C'est un certain Peleg. Regardez au verset café. Où les Ever Ulad chez les Banim, Ever eut deux fils, Shema et Had Peleg. Le nom du premier était Peleg. Donc, le premier Hébreu de l'histoire, c'est Peleg. C'est pas? Maintenant, où est-ce que vivaient les Hébreux en question? Dans le pays des Hébreux. Comment est-ce qu'on dit en hébreu, pays des Hébreux? Eretz Ha'ivrim, n'est-ce pas? Le pays des Hébreux, Eretz Ha'ivrim. Mais où est ce pays des Hébreux? Est-ce qu'il y aurait une indication quelque part qui nous dirait où est le pays des Hébreux?
De l'autre côté du Jourdain.
De l'autre côté du Jourdain, oui, mais de quel autre côté? Parce qu'il y a deux côtés dans le Jourdain. À part ça, ça pourrait être pas de l'autre côté de, je sais pas, de la Loire. Bon. Donc, regardez au chapitre même, au verset Tetvav. Je vous envoie un peu loin. Gardez la page, mais regardez au chapitre même, au verset Tetvav. Je dirais que c'est un peu loin, mais l'effort en vaut la peine, à mon avis. Ça vaut la peine. Regardez au chapitre même, au verset Tetvav. C'est incroyable. Combien de temps ça vous prend? C'est très très loin. Mais enfin, est-ce que c'est si difficile de trouver? Voilà, il a trouvé. Chapitre même, verset Tedva. Ki gunov gunavti, car j'ai été enlevé, j'ai été volé, mais Eretz à Ivrim, du pays des Hébreux. Qui c'est qui dit ça? À qui? C'est Yosef qui dit ça à un ministre égyptien, dont il a besoin de son aide. Quand on parle à un dignitaire égyptien dont l'aide est nécessaire, on ne dit pas n'importe quoi, on parle un langage clair, n'est-ce pas? Ça veut donc dire que du temps de Yosef, il était évident pour les Égyptiens que le pays qu'on appelle Canaan, en fait, était le pays des Hébreux. De quels Hébreux? Des Hébreux de l'Antiquité. Donc les Hébreux étaient originaires de la terre d'Israël, du pays de Canaan. Et pourtant, ce qui est bizarre, c'est que la première fois qu'on rencontre des Hébreux dans la Torah, on les rencontre non pas en Canaan, mais regardez où? Au chapitre Yud Aleph, je reviens au chapitre Yud Aleph. Et on nous parle ici de qui? Eh bien, des, quoi? De Our Kasdim. Regardez au verset, Kafret. Vayamot Haran al Pene Terah Aviv Beretz Moladeto Our Kasdim. Terah mourut du vivant de Terah son père dans le pays de sa naissance à Our Kasdim. Comment? Haran. Haran est un des Hébreux, c'est un frère d'Abraham. Donc, on voit que il y a ici une famille d'Hébreux qui n'est pas chez elle. Ça s'appelle comment, une famille qui n'est pas chez elle? Les exilés. En hébreu, Golim. Nos ancêtres, les Golim, qui sont loin de chez eux. Ils sont donc en exil. Comment est-ce que cet exil s'est passé? Quelle est son origine? Nous ne le savons pas. La Torah ne le dit pas. Mais ce que nous savons, c'est que ça commence là-bas. Et que le récit d'Israël, c'est comment sortir de l'exil. Et ça se passe donc à Our Kasdim. C'est la dernière famille des Hébreux dont on entend parler. Donc, dans cette famille, il y a un homme qui s'appelle Abraham, on va le voir bientôt, qui est le dernier des Hébreux. Et contrairement à l'image d'Épinal qui dit qu'Abraham était le premier Hébreu. C'est exactement le contraire de la vérité. Il était le dernier. À Ivry, ça veut dire quoi, l'hébreu? Abraham, l'hébreu. Les hébreux, pourquoi? Parce qu'il est de la famille des hébreux. On n'a pas l'habitude de parler d'ascendant. Donc, comme c'est pas l'habitude, donc nous avons tort. Ouais. Je ne pense pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec cette famille-là? Regardez au verset Kavzaïn. Ve'ele toledot Terach. Voici les engendrements de Terach. Terach, olidet Avram et Nahor et Haran. Terach a engendré Avram, Nahor et Haran. Ve Haran, olidet Lot. Quant à Haran, il a engendré Lot. Ça veut dire quoi, Lot? Lot en hébreu, ça veut dire un voile. Un voile. C'est-à-dire que Lot est une identité voilé. On ne sait pas encore ce qu'il va être. Mais enfin, s'il y a des problèmes, c'est toujours de sa faute, parce que c'est toujours la faute de Lot. Et donc, il y a ici le chef de la famille, Terach. Comment est-ce que dans les Bibles classiques, on traduit Terach? Non, Taré. C'est-à-dire qu'Abraham, d'après ces traductions-là, est un fils de taré, ce qu'il a écrit. Mais c'est à cause de la traduction de la Septante que c'est comme ça. Nous allons dire plutôt Terach, je pense que c'est mieux. Comment? Oui, Terach vient de la lune, Yareach. Ça veut dire également sentir, Léariach. Il y a vraiment des rapports. La ville de Haran, où habitait Terach, à un moment, il y avait un culte lunaire. Mais en tout cas, donc il y a ici Terach, qui est le chef de la famille. Il a trois enfants. Et puis, il y a un petit-fils déjà, Lot. Et dans la famille, probablement, on est préoccupé de l'idéal des Hébreux. Alors, c'est quoi l'idéal des Hébreux? C'est l'idéal des Hébreux. Si on voit par exemple chez Éver, l'ancêtre de tous, il appelle son fils Peleg. Pourquoi est-ce qu'il l'appelle Peleg?
Peleg, c'est un...
Oui, mais une seconde, regardez, pourquoi est-ce qu'il l'a appelé Désaccord? C'est bizarre de donner un nom pareil à un enfant, pauvre enfant. Alors regardez au chapitre Yud, au verset Kaf-He. Chapitre Yud, au verset Kaf-He. Oula Ever Yulad Shenebanim, Ever eut deux fils. Shema Echad, le nom de l'un, Peleg. Pourquoi? Kibiyamav Niflega Haaretz. Car dans ses jours, la terre fut divisée. Alors, comment est-ce que Ever sait, quand son enfant naît, que du vivant de son fils, la terre sera divisée? C'est donc un prophète. N'est-ce pas? Il dit Chachamim, quoi? Quand, oui,
c'est le jour au père.
Oui, ça peut être aussi dans les jours du père. Et les Chachamim ont préféré dire que c'est dans les jours du fils. Il y a des raisons à cela. C'est-à-dire, parce qu'on suppose que la Torah ne nous a pas raconté ça n'importe comment. Donc il y a des raisons à cela. Et donc il appelle son fils Peleg. Il est prophète, dit Chachamim. À part ça, hein, non seulement il est prophète, mais de quoi parle la prophétie de Ever? Quelle est la préoccupation de cette prophétie? la division du monde, n'est-ce pas? Bah oui. Ça veut dire que l'idéal de la famille de Weber, c'est l'unité. D'accord? C'est-à-dire que Abraham est formé par la tradition de sa famille à chercher l'unité. Mais comment est-ce qu'on réalise l'unité en question? Il y a certainement des stratégies différentes et même divergentes qui vont s'affronter dans la famille des époux. C'est ce que nous allons apprendre bientôt. Mais en tout cas, Terach est porteur de cette tradition. D'après les fouilles archéologiques, les Hébreux en question, sont identiques à une peuplade que les tablettes cunéiformes appellent Khabirou. Les Khabirou en question étaient, d'après les témoignages de l'archéologie, ils vivaient en communauté dispersée dans les différents pays du Moyen-Orient antique. Et puis ils faisaient du commerce. Et ils avaient souvent les postes clés des différentes sociétés dans lesquelles ils vivaient. Comment ? Ils étaient influents, ils avaient donc des postes clés. Ils avaient le nez tordu. Et à part ça, ils étaient réputés pour certaines normes qui étaient différentes chez eux de chez les autres. Par exemple, quand un esclave s'enfuyait chez eux, ils ne le restituaient pas. Il y a un commandement qu'on trouve dans la Torah par la suite. Et donc il n'y a pas d'extradition. Ah, c'est les Hébreux. Maintenant, d'après la tradition du Midrash, un des métiers qu'on trouvait chez les Hébreux, c'est le métier du père d'Abraham, Terach. Il avait un magasin d'idéologie. Il fabriquait des idéologies et il les vendait aux goyim. Et les goyim achetaient. Bien sûr, c'est-à-dire que venait un goy, il disait, voilà, monsieur Terach, je voudrais une idéologie, ça me manque. Et alors il disait, regardez là sur l'étagère, j'en ai créé une nouvelle. Vous ne voulez pas la prendre? C'est à bas prix aujourd'hui. D'accord? Comment? Oui, c'est-à-dire que oui, ils donnaient des valeurs. Ils étaient l'origine des valeurs. Alors maintenant, dans l'Antiquité, les idéologies, ça s'appelait des idoles. C'était des dieux. Quoi? Aujourd'hui aussi, les juifs vendent des dieux. D'accord? D'ailleurs, on en a vendu pas mal dans l'histoire des dieux. Ouais, cadeau. Hein. Bon, maintenant, imaginez-vous quelque chose. Si les goïms de l'époque pouvaient considérer qu'un hébreu pouvait être un fabricant de dieux, alors l'hébreu lui-même, qu'est-ce qu'il est? Un super dieu.
Ah oui?
Ben oui. C'est-à-dire, vous voyez donc la...
Non, ça peut être
Non, ça veut dire qu'il y a une tendance. Oui, ça veut dire l'inverse, il y a aussi le rejet du père, il y a ça aussi. Mais ça veut dire qu'il y a une tendance, déjà dans les origines de l'humanité, à diviniser un hébreu. D'accord? Donc ça se vend bien, probablement. D'accord? Ça veut dire que l'hébreu a été diagnostiqué comme étant celui qui enseigne les valeurs. Construit des statues. Des statues avec un E à la fin ou avec un T à la fin. D'accord? Il y a les deux. Et en tout cas, dans cette famille-là, Abraham apparaît. Cette famille se trouve à Ur-Kasdim. Drôle de nom, ça, Ur-Kasdim. Ça veut dire quoi, Ur? Non, Or, ça veut dire la lumière. Mais Ur, ça veut dire quoi? Ur, ça veut dire la fournaise. Comment? Donc, Kasdim, ça veut dire des Chaldéens. Ur-en-Chaldé, n'est-ce pas? Ur-en-Chaldé. Alors voilà. Ur-Kasdim, c'est Ur des Chaldéens, c'est-à-dire la fournaise des Chaldéens. La fournaise servait déjà à fabriquer des briques. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Pour construire la tour de Babel, on avait besoin d'un four pour faire des briques. Donc ça correspond à la civilisation de l'époque qui était obnubilée, fascinée par le feu et ce qu'on pouvait en faire. N'est-ce pas? La technologie et tout ça. Ils sont entrés dans le cœur de la fournaise. Alors, là, la Torah nous donne ici un renseignement important. Elle nous dit que Haran, dans le verset Kafret, le fils de Terach, meurt du vivant de son père. Vayamot Haran al pene Terach aviv. Haran mourut du vivant de Terach son père. Be'eretz moladeto, dans le pays de sa naissance. Be'ur Kasdim, dans le feu des Chaldéens. Mourir du vivant de son père, c'est pas une mort naturelle. Et les Chachamim nous ont compris qu'il y avait ici une allusion à quelque chose de très important, c'est qu'il y a eu une persécution contre les Hébreux. Et que la persécution en question consistait à introduire les Hébreux dans des fours. Le résultat, un sur trois dans la famille disparaît. Un tiers de la nation, ce qui restait de la nation hébraïque à l'époque, disparaît dans la fournaise.
Pourquoi juste
un sur trois? Il y a Avram, Haran et Nahor. Donc il y a trois manières d'être hébreu chez les enfants de Terah. Un des trois disparaît. Donc ça fait un tiers. Un tiers d'une génération. D'accord? Qu'est-ce qui se passe après ça? Ben, après ça, il faut tout d'abord rétablir, retaper ce qui reste des rescapés de la Shoah. Vaïkar Avram Venachor Laem Nashim. Alors Avram et Nahor prirent pour eux des femmes. Shem Meshet Avram Sarai. Le nom de la femme d'Avram était Sarai. Veshem Meshet Nahor Milka. Et le nom de la femme de Nahor était Milka. Bat Haran, qui était la fille de Haran. Avi Milka va Avi Yiska. Père de Milka et père de Yiska. D'après les Chachamim, Yiska n'est autre que Sarah elle-même. Ça veut dire que chacun des deux frères restants va épouser les filles de Haran disparues dans la tourmente. Ça, c'est donc la première réaction. Deuxième réaction. Après, il y a aussi Vatei Sarai Akara. Or, Sarai était stérile, elle la valade, elle n'avait pas d'enfant. Ou elle ne pouvait même pas avoir d'enfant. Alors, ça veut dire que où sont les espoirs de la famille hébraïque? Chez Nahor. Nahor est le seul, en fait, qui peut continuer. Peut-être Lot, mais on ne sait pas encore qui il est. Et en tout cas, pas Avram. C'est ce que représente Avram ne peut pas avoir de continuité dans l'histoire. Il n'y a plus d'espoir chez Avram. Vaïkar, Terah est Avram Beno. Alors, Terah prit Avram son fils. Prit Avram son fils. Vet Lot ainsi que Lot. Ben Haran ben Beno, fils de Haran, qui était le fils de son fils. Vet Sarai Kalato ainsi que Sarai Sabru. Eshet Avram Beno, qui était la femme d'Avram, son fils. Vayetse Uitam Ur Kasdim. Et ils sortirent avec eux d'Ur Kasdim. La Lechet Arza Kenaan pour se rendre dans le pays de Kenaan. Alors, pourquoi est-ce que Terah veut se rendre en Kenaan? Parce qu'à Ur Kasdim, ça barde. C'est-à-dire que Terah prend une décision très importante. Il veut ramener ce qui reste des Hébreux dans le pays de leurs ancêtres. Il le fait parce qu'il y a des pogroms à Ur Kasdim. La motivation de Terah n'est pas une motivation religieuse. Il s'en fiche pas mal. Mais il veut revenir dans le pays de ses ancêtres. Jusque là, vous me suivez? Bon. Donc tout semble aller bien. C'est-à-dire qu'il y a ici l'initiative qu'on pourrait dire sioniste, laïque, de ramener le peuple d'Israël, alors un peuple hébraïque, sur sa terre. Vayavou ad Haran. Ils arrivèrent à Haran, jusqu'à Haran. Vayez chez vous, Sham. Ils s'installèrent là-bas. Ça veut dire que ça a raté. Terah reste à Haran. Ah bon? Pourquoi s'est-il arrêté? Il y avait une persécution à Haran. Il n'y avait plus. Mais il voulait aller à Kenaan. Mais il voulait aller à Kenaan. Il écrit la Lechet Arza Kenaan pour se rendre dans le pays de Kenaan. Il a trouvé quelque chose là-bas. Qu'est-ce qu'il a trouvé là-bas? D'abord, regardez un peu au début du verset. Verset Lamed Aleph. Qui Terah prend-il? Veikar Terah et Avram Beno Vetlot Ben Haran Ben Beno. Terah prit Avram son fils et Lot son petit-fils. Mais Sarah et Kalato et Sabru, Sarah. Qui c'est qui manque?
Nahor.
Nahor. Ah. Mais où était Nahor? Mais où est donc
Nahor, il est là-bas.
Ornica. Tu dis que Nahor était déjà là-bas. C'est vrai. Il rencontre Nahor. Il faut simplement prouver qu'il était vraiment déjà là-bas. Regardez une petite seconde au chapitre Kafdalet, au verset Yud. Je sais, c'est dur. Regardez au chapitre Kafdalet, au verset Yud. Ah, chapitre Kafdalet, verset Yud. Vaikach ha'eved, ha'sara gemalim, migmale adona vayelech. Le serviteur prit 10 chameaux, des chameaux de son maître, et ala. Vayavo el Aram na Araim, il arrive dans la Mésopotamie, à Aram en Mésopotamie, et l'Aïr Nahor dans la ville de Nahor. Or, la ville de Nahor, nous apprenons par la suite avec le récit de Yaakov, que ce n'est autre que la ville de Haran. Donc, Haran est appelé ville de Nahor, parce que c'est Nahor qui y était. Maintenant, donc on comprend Avraham, marchant, Terach, partant d'Ur Kasdim, pour se rendre en Canaan, passe par Haran, il rencontre son fils, Nahor. Son fils lui dit, « Oh, papa, comme je suis heureux de voir que tu as échappé à la catastrophe, pauvre Haran, notre frère, qui a disparu, mais enfin, je suis tellement content que tu sois là. Où est-ce que tu vas, papa ?» Il dit, « Moi, je vais en Canaan. » Nahor lui dit, « Enfin, papa, tu es fou ?» Je ne veux quand même pas aller là-bas. Mais c'est le pays de nos ancêtres. Oui, mais attention, depuis que nous avons quitté le pays des Hébreux, il y a là-bas maintenant des Cananéens. Oui, mais enfin, il y a beaucoup de Cananéens. Alors, ce que dit ici Nahor à son papa, écoute, on va devoir faire la guerre. Tu veux encore des problèmes? Il vaut mieux que tu restes ici, en Haran. À Haran, parce qu'à Haran, les Goïms ne brûlent pas les Hébreux. À Ur Kasdim, on les brûle, mais à Haran, ça va bien. Ils parlent l'araméen, ce sont des araméicains. Et avec eux, on peut très bien s'arranger. Et nous allons fonder ici une communauté. Et c'est-à-dire que ce que propose en fait Nahor à Terach, c'est ce qu'on appelle le cosmopolitisme. Nous allons fonder des communautés parmi les nations et les illuminer de la lumière des Hébreux.
C'est pas un peu son propre fils qui lui propose le Nahash.
Le Nahash.
Ah non, même Diaz qui lui dit, au lieu de revenir sur ta patrie et de pouvoir y vivre pleinement...
Ah, c'est la tentation du Nahash, ça ressemble.
Il y a une part de ça quand même.
Oui, bien sûr, mais, enfin, mais bien intentionné.
Amarré. On ne dit pas que le Nahash et Nahash passent la vérité, on ne dit pas que ça, c'est pas
sûr. Nahash, tu as tout à fait raison. Mais c'est-à-dire que le projet de Haever, qui était de rassembler l'humanité, ça peut passer, en tout cas dans le projet de Nahor, par le cosmopolitisme, non, pas par un état justement.
Une étape.
C'est-à-dire, l'étape serait... de faire des communautés éparses qui vont s'ancrer dans la civilisation locale.
C'est bien, c'est pas bien.
Alors regardez le résultat. Le fils de Nahor s'appelle Betuel. On le voit par la suite. Mm-hmm. Betuel s'appelle Betuel Ha'arami, l'araméen. Son petit-fils, Lavan, c'est pas des blagues, Lavan Ha'arami. Lavan, l'araméen. Mais c'est pas des araméens, ce sont des hébreux.
Bah.
Ils sont devenus araméens. C'est-à-dire que quand on a cette intention cosmopolitique, on devient assimilé. C'est ça, c'est-à-dire que l'assimilation, c'est de fait ce qui se passe avec le cosmopolite. Et donc, ça ne peut pas marcher. Mais en tout cas, c'est ça la tentation. La tentation des Hébreux, c'est d'être araméen. Ce qui explique l'importance de la langue araméenne dans la tradition juive. C'est la langue que nous parlons dans notre subconscient. Et le conscient parle hébreu, le subconscient parle araméen. D'accord ?
C'est grave.
C'est grave. Mais enfin, c'est disons que c'est la donnée. C'est comme ça que ça marche. Okay. Voilà. Et...
Est-ce que c'est l'inverse, qu'on parle araméen et qu'on pense...
En hébreu ? C'est possible. Enfin, c'est comme ça que ça marche. Vayu yeme terach, et les jours de terach furent, hamesh shani ou mataim shana, 205 ans, payamot terach beharan, et terach mourut à Haran. Quoi, il n'a pas eu le temps, c'est pas vrai. On voit que par la suite, tout ce qui se passe, ça se passe encore du vivant de Terach. Oui. Vayomer Hashem el Avram. Et alors, Dieu dit à Avram, quand il est donc à Haran, de faire quelque chose de nouveau. Alors, il va lui dire de partir. Quel âge a Avram lorsque Dieu se révèle à lui pour lui dire de partir? Il a 75 ans. D'où est-ce que tu le sais? C'est écrit dans le chapitre Yudbet au verset d'Alet. Avram ben Chamesh Shanim v'Shivim Shana b'Tzeitu Miharan. Avram a 75 ans lorsqu'il sort de Haran. 75 ans, c'est un âge respectable, vénérable. C'est vrai qu'à l'époque, on vivait des centaines d'années parfois. Mais ça ne veut pas dire que jusqu'à 75 ans, on n'avait rien fait. Donc on peut dire qu'Abraham est quelqu'un qui est déjà bien établi, qui a beaucoup de choses à faire dans la vie. Qui a fait beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que faisait Abraham jusqu'à 75 ans? La Torah ne nous le dit pas vraiment expressément, mais d'après quelques allusions, les Chachamim nous ont enseigné qu'Abraham était un monothéiste et qu'il enseignait la foi en Dieu. Ce n'est pas écrit dans la Torah, mais la tradition orale le dit.
Qu'il a écrit les
âmes
qu'il avait
faites. C'est la seule allusion qu'on trouve. La seule allusion presque express. Mais en tout cas, Abraham, donc, c'est quelqu'un qui s'occupe d'enseigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que les idoles ne sont que vanité. Et qu'il faut rendre un culte à Dieu. Et qu'en rendant un culte à Dieu, ben, on arrive à sanctifier sa vie, à la rendre meilleure, à être morale, etc. Olam haba, tout ce que vous voulez. Et si, à ce moment de sa vie, je demande à Avram, à qui destines-tu ton enseignement? C'est-à-dire, qui sont les hommes que tu veux rendre monothéistes? Quelle sera la réponse d'Abraham? Tous les hommes. Tous les hommes, indistinctement. C'est-à-dire qu'Abraham veut fonder une religion monothéiste, cosmopolite. Pas mal, ça, comme idée. Est-ce que... Quoi? Je ne sais pas si c'est une erreur. En tout cas, c'est son projet. Il veut enseigner à tout le monde que Dieu existe. Très bien. Est-ce que Abraham, à ce moment de sa vie, pense à fonder une nation?
Non.
Son idée est très loin de ça. Il s'appelle Avram. Et Rami, on comprend ce que ça voulait dire. Av, les Arams, les pères des Araméens, lui aussi. C'est-à-dire qu'il joue la carte araméenne à ce moment-là de sa vie. Et pendant ces 75 ans, enfin 60 ans, 65 ans, pendant lesquels Avram enseigne son enseignement, il a un espoir qui est ce Dieu dont je parle tout le temps, j'aimerais bien qu'il me parle à moi. J'espère qu'un jour, il se révélera à moi. Arrive l'âge de 75 ans, merveille, Dieu lui parle. Pour lui dire quoi? Lech. Lech, ça veut dire va, lecha. Alors, traduisons ça de manière très précise. Lecha, ça veut dire va. Il y a une différence entre va et va-t'en. Quelle est la différence entre va et va-t'en?
C'est un rejet.
Va-t'en, c'est un rejet. Brusquement, va tout seul. Donc quelqu'un dit, Ani holer li, je m'en vais. C'est un pronominal. Ça veut dire, je vais seul. Quand on dit je vais, ça ne veut pas dire que je vais seul. D'autres peuvent venir avec moi. Donc, ce que Dieu dit à Abraham, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ben, lâche. Vous vous rendez compte? Le coup de tonnerre. Comment? Pendant 75 ans, j'ai travaillé, c'est ça que je reçois? Laisse tomber tout ce que tu as fait. Toute ton entreprise. Et pourquoi faire? Qu'est-ce que je vais faire à la place? Ben, il est très simple. L'er lecha, me'artzecha ou melatecha ou betavicha. Va-t'en de ton pays, du Dieu de ta naissance, de la maison de ton père, et la arrête sa chère Eka vers la terre que je t'indiquerai, Vesra les Goy Gadol, et je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire que jusqu'à présent tu t'es occupé de religion, et maintenant tu vas t'occuper de politique. C'est-à-dire que tu as fondé une nation sur une terre. Une nation sur une terre, ça s'appelle en français un État, c'est-à-dire une entité politique. Et jusqu'à présent, tu t'occupais donc de sainteté individuelle. Maintenant, tu vas t'occuper de sainteté collective. Jusque-là, vous suivez? C'est un chidouche énorme. C'est-à-dire que le projet d'Abraham, maintenant, ne concerne plus l'individu. Vous comprenez que ça peut faire peur, une chose pareille.
Quoi?
Alors justement, tu vas faire un peuple modèle, Vénivrechou Becha comme Mishperot Adama, dit le verset Guimel, et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. C'est-à-dire, tu vas enseigner aux nations comment faire des nations saintes, comment sanctifier les nations. Et on peut dire que c'est un projet très osé, parce que la politique, comme vous savez, on dit en général, ah la politique, mais c'est dégueulasse. C'est-à-dire que sanctifier le cadre politique semble quasi impossible pour des personnes morales. Tandis que la vie individuelle, ça semble plus simple. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il a un projet, à la mesure d'un projet gigantesque, il veut que Abraham se serve comme de la politique comme levier du tikkun. C'est-à-dire, c'est en passant par le collectif que l'humanité arrivera à son but. Sinon, ça ne peut pas arriver. Je vais vous donner pour ça un exemple tiré d'un livre de littérature française. Un livre qui s'appelle « Les Misérables » d'un certain Victor quelque chose. Vous avez entendu parler ? Hugo, c'est ça, Hugo. Hein ? S'il a un nom. Non, Victor Hugo. Victor Hugo. C'est un bouquin, un beau livre, n'est-ce pas ? « Les Misérables ». Maintenant, quelle est la thèse du livre « Les Misérables » qui parle d'ailleurs de misérables ? D'accord ? Les gens là-bas sont Jean Valjean, Cosette, Gavroche, tout ça sont des malheureux, n'est-ce pas? Et vous connaissez ce livre? Vous l'avez lu, n'est-ce pas? J'espère bien. La thèse du livre, c'est la suivante. Oui, c'est vrai, c'était il y a longtemps. C'était il y a 2 mois déjà. La thèse du livre est que le monde est cruel. Le monde, c'est terrible. Cruauté terrible. Qui vient du fait que l'homme vit dans des cadres qui sont impersonnels. C'est-à-dire, le monde est dominé par les politiciens. Et la politique, c'est une machine qui écrase l'homme. Mais il y a quelque chose qui peut donner un goût à la vie. Ce qui peut donner un goût à la vie, c'est un peu de charité, un peu d'amour chrétien, un peu de générosité. Et ça peut adoucir la vie et donner de la lumière dans la vie. C'est très joli, n'est-ce pas ? Mais c'est extrêmement pessimiste. Ça veut dire que le monde restera toujours dans sa crasse. Il ne pourra pas s'en sortir. Le projet de la Torah, c'est exactement le contraire. C'est que c'est la transformation du politique que le monde a changé. Et qu'on est capable d'en faire. La politique. Il y a 2000 ans, un juif qui a fait des problèmes à ce propos, qui voulait revenir en arrière. Le juif en question est allé voir les rabbins. Il leur a dit, vous autres, les membres du Sanhédrin, les pharisiens, vous attendez que vienne le fils de David pour vous libérer de la domination romaine. Mais moi, je suis venu pour m'occuper des âmes. C'est-à-dire, il a refusé le politique pour entrer dans l'individuel. Comme disait le même personne, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est une autre manière de dire, ce qui appartient à César n'appartient pas à Dieu. Et les rabbins lui ont dit, intéressant, mais tu es en dehors du judaïsme. Ils ont refusé de jouer le jeu. Donc ça veut dire qu'il y a ici un refus. Il y a ici donc un enjeu pour Abraham d'oser le politique. D'accord ? Et donc de fonder une nation.
Ça lui est imposé en même temps.
Ça lui est imposé, on va voir comment il va réagir. C'est pas évident qu'il accepte. Ça, on verra par la suite, que c'est très compliqué pour Abraham, cette idée-là. Mais en tout cas, vous avez ici donc cette idée que l'universel passera par un État. C'est de l'universalisme. Donc vous avez en fait, dans la même famille originelle, vous avez 4 types d'individus. Vous avez Terah qui est un sioniste laïque. Vous avez Nahor qui est un juif cosmopolite. Vous avez Terah qui est un sioniste laïque. Vous avez Nahor qui est un juif galoutique, exilique, un cosmopolite, quoi, on peut dire. Vous avez Haran qui est une victime de la Shoah. Et vous avez Abraham qui fait le national religieux universel. D'accord ? Ce sont quatre identités qui sont à l'origine de la famille d'Israël. Ça veut dire que c'est très compliqué dès le départ.
Vous avez... les deux derniers,
je peux répéter les deux derniers. Haran, qui est une victime de la Shoah. Abraham, qui est un sioniste religieux universel. Et donc, vous avez dès le départ quatre identités qui sont à la base de la famille et qui vont former l'identité d'Israël. Ce qui explique pourquoi nous sommes si compliqués, parce que nous sommes tiraillés dans notre identité dès le départ, entre quatre manières d'être des Hébreux.
Vous êtes tolérant, quoi ?
Non, pas du tout. Être tolérant, ça paralyse. Il faut savoir comment va se faire cette synergie entre les différentes parties.
Ah bah, ça... La synergie entre tout ça, c'est de la tolérance.
Pas vraiment.
On s'accuse les uns les autres, on
n'avance
pas.
Si, si, ça avance. On l'accuse. Et... Enfin, bon, on va voir ce que ça va donner, d'accord ? C'est le texte de la Torah qui nous enseigne ça. Mais ça, ça sera pour la prochaine fois, Inch'Allah.